toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, nos deux invités nous invitent au voyage, un voyage entre le Liban et le Canada, entre les années 80 et aujourd'hui, entre une fille rebelle et une mère pas si sage, un voyage d'images, de souvenirs et de réminiscences presque proustiennes qui commence à la veille de Noël dans les neiges de Montréal quand Maya reçoit un gros carton provenant de France. Qu'y a-t-il dans le carton? C'est ce que veut savoir la fille de Maya. Mais sa mère reste muette. Alors nous, spectateurs, nous l'apprendrons bientôt. Ce paquet contient toutes les lettres, les photos, les cassettes que 30 ans plus tôt, à des milliers de kilomètres du Canada, dans ce pays que la fille connaît peu, hein, au Liban, en pleine guerre civile, toutes les lettres que Maya a envoyées à sa meilleure amie. Bonjour Johanna Adjitoma.
Bonjour.
Et bonjour Khalil Tourej.
Bonjour.
Memory Box, c'est votre 11e film. Vous avez accepté de nous en commenter 15 minutes, l'occasion de parler de vos choix de mise en scène. Alors, vous êtes déjà venu nombre de fois dans cette émission. On vous connaît, vous êtes cinéaste et plasticien. Et on le sait, quand on connaît vos films, vous partez toujours de quelque chose qui vous touche directement ou pas. Entre autres, Johanna, vous avez déjà raconté l'histoire de votre grand-mère dans un merveilleux film, Izmirne, c'était en 2016, si je ne me trompe
Exactement.
Pas. Et quant à cette Memory Box, eh bien, elle est au cœur de votre histoire, à tous les deux, mais surtout de la vôtre, Johanna. Alors racontez-nous comment tout a commencé.
En fait, un jour, j'ai reçu moi aussi cette boîte de lettres, de cahiers, de cassettes que j'avais écrites à ma meilleure amie dans les années 80. Elle vivait au Liban et tout d'un coup, sa famille a décidé de partir en France à cause de la guerre civile. Et nous, on s'est promis de s'écrire tous les jours. Et on l'a fait. On a écrit des lettres interminables, tout ça, pendant 6 ans. Et puis ensuite, on s'est un petit peu perdu de vue. Et elle avait gardé mes lettres, mes cahiers, et moi j'avais gardé les siens. Et un jour, elle est venue à une de nos expositions en 2013 et elle m'a dit « j'ai tout gardé ». Et je lui ai dit « moi aussi ». Et tout d'un coup, cette boîte est arrivée dans mon salon, comme dans le film un peu. Et ma fille voulait, et moi je lui ai renvoyé bien sûr sa correspondance, et ma fille, notre fille Alia, qui avait 14 ans, voulait elle aussi, comme Alex, lire, ouvrir la boîte.
Et vous étiez aussi réticente
Moi, je n'étais pas réticente du tout à les lire. Je me suis plongée dedans, j'ai fait une nuit blanche, j'ai tout lu, tout écouté.
Plusieurs.
Mais je me suis juste dit, est-ce que c'est une bonne idée de donner tout ça à ma fille adolescente, de lui montrer quelque part toutes mes histoires et il y a quand même un côté identification et distance à cette période. Et on s'est juste dit, c'est peut-être pas génial de les lui donner, mais c'est une belle matière pour faire un film.
Surtout qu'on a remarqué que dans les cahiers, Johanna ne se souvenait pas exactement de la même façon que ce qui était écrit. Donc il y avait un décalage entre ce qu'elle nous avait raconté.
Réécriture de l'histoire, un peu.
Alors, Khalil Tourej et Johanna Adjitoma, d'habitude, la première bobine, donc la leçon de cinéma, elle démarre hein, par définition au début du générique, mais là, on a fait une petite entorse pour vous. Et donc, l'extrait qu'on va entendre commence à la 16e minute du film. Extérieur nuit, une maison dans la neige, on est au Canada. Alex, donc la fille, hein, vérifie bien que sa mère dort. Elle descend à la cave. Voilà, elle descend voir ce que ce mystérieux carton que sa mère vient de recevoir contient. Donc la caméra fait corps avec elle. Et là, voilà, le noir, la petite lumière mince, jaune de la lampe torche. On est presque dans un film d'espionnage.
fait, c'était très important de démarrer cette scène avec le téléphone d'Alex, parce que ce téléphone va jouer un rôle très important dans la réappropriation du film. Donc Alex descend à la cave et à cette boîte, elle veut absolument savoir ce qu'il y a dedans.
En fait, elle sait que sa mère ne veut pas les lire et lui a demandé de ne pas les lire, donc elle va le faire en secret, en cachette. Donc il y a déjà ici un climat, un peu de suspense, puisque, pour reprendre l'expression que vous avez dite, et le téléphone va lui servir d'interface pour pouvoir voir ces éléments. On entend le clic des photographies qu'elle est en train de faire, parce que c'est par son téléphone qu'elle peut zoomer dans les planches contact, dans les éléments très très hétérogènes de ces appareils. Elle ne peut pas comprendre tous ces éléments, donc elle en saisit des fragments. Elle reconnaît une image, elle voit une image étonnante, celle de sa mère embrassant un jeune homme. Et à partir de là, elle est prise dans une histoire, comme dans une série.
Alors la caméra la suit, elle remonte dans sa chambre hein, en vitesse pour ne pas se faire surprendre, elle bloque la porte et elle va ouvrir le premier des journaux intimes de cette memory box et elle va découvrir le diagramme émotionnel de sa mère hein, sur des feuilles de papier millimétrées, abscisse ordonnée. La morale de sa mère en juin 82, c'est le début de l'invasion israélienne au sud du Liban. Alors il y a différents moments. Hein. Évidemment, quand c'est tout en haut, c'est je plane, je suis aux anges. Et puis tout en bas, on imagine que le moral dégringole. Ça, ces carnets, ce sont des véritables des reliques.
Ça, c'est ce qu'on a appelé mon moral. C'est ce que je faisais, oui, tous les mois, religieusement.
D'ailleurs, on vous reconnaît parce que souvent, Johanna Agitomar, enfin, ceux qui vous connaissent bien savent que vous dites souvent « je suis folle de joie ». Donc, on sait que c'est vraiment...
C'est vrai, je continue. Je suis aussi parfois très désespérée et à l'aide. Quand même. Mais c'était très amusant de les retrouver, effectivement, et de suivre cette courbe. Et c'est un mélange dans
qui
le
est
film
très contrasté, hein,
entre mes cahiers, mes vrais cahiers, parce que c'est aussi les vrais cahiers, mon écriture, et auxquels nous avons adjoint bien sûr les parties fictionnelles et aussi les photographies de Khalil, mais aussi bien sûr les 10 000 photos qu'on a faites pour faire ces cahiers avec le cast du film, tous les personnages. Et c'était un travail extraordinaire aussi créativement avec toutes les équipes qui ont travaillé. Et quand Alex va ouvrir ce cahier, après le moral, elle va avoir l'écriture de sa mère et accès en fait à tous ses secrets. Et elle va tout de suite aussi comprendre que là, elle va suivre au fur et à mesure la vie de sa mère. Mais c'est très important de garder l'idée qu'elle va avoir son téléphone à la main tout le temps, parce que c'est ce qui va lui permettre de réactiver et de se passer et de se l'approprier en fait.
En fait, on remarque au début, juste un intercalaire, c'est qu'au cahier de Johanna, on a rajouté ma propre archive, parce que ce que Johanna faisait en écriture, je le faisais en photo. Et j'ai une archive à peu près de 60 000 photos. Et ma fille, en 6 mois sur Snapchat, avait fait 50 000 photos. Mais ce n'est pas le même genre, je n'ai pas de cette fille, etc. Mais c'était quand même une façon pour nous, parce que nous ne sommes pas du tout moralisateurs, etc., de comprendre que pour elle aussi, c'était un journal intime, c'était un cahier, une chronique de sa vie et une façon de se représenter. Donc le téléphone, pour nous, représente... Well, c'est pas un téléphone, c'est un smartphone. C'est un monde qui préexiste. Donc on le voit, elle est en communication avec ses amis, sa bande de copains,
alors,
etc.
On ne l'a pas dit, mais ce qu'on entendait tout à l'heure, en fait, c'est qu'elle prend non seulement elle prend des photos sur son portable, mais en plus, elle les envoie à ses copines.
Oui. Voilà.
Et ça marque un écart et une continuité avec votre génération. C'est-à-dire, comme vous le disiez, effectivement, à l'époque, la photo, c'était rare. On ne prenait pas des photos tous les jours. Mais en même temps, la photo, c'est quand même le lieu du partage de l'émotion. Donc, il y avait quand même une continuité entre ces photos prises sur un appareil classique comme les vôtres et puis celles que prend que prend Alex pour les envoyer à ses copines.
La photographie, en fait, ça va être le vecteur, le début de l'ouverture de l'imaginaire d'Alex, parce qu'elle va voir ses photos. Et sa mère était passionnée de photographie, donc elle en faisait pas mal. Et ces photographies vont lui permettre de constituer un monde, de constituer le monde, en fait, de sa mère. Et parce que ce qui va se passer à partir de là, c'est qu'elle va se mettre à imaginer.
Et alors, vous créez toute une ambiance, c'est-à-dire que c'est la nuit. Elle est, si j'ai bien compris, dans une espèce de sous-sol, quoi, de cave. Donc, c'est un peu un cocon. Et la caméra sur son visage... Alors, je ne sais pas ce que vous avez dit à la jeune actrice Paloma Vautier, qui joue Alex. Mais elle est ravie, presque au sens durassien du terme, quoi. C'est-à-dire, tout à coup, elle est ailleurs, quoi.
Parce qu'en fait, Paloma, comme les autres acteurs du film, ne lisent pas le scénario. Personne ne lit le scénario nous, depuis toujours. En fait, on demande aux acteurs s'ils veulent bien suivre cette méthode. On leur raconte beaucoup de choses, on passe beaucoup de temps avec eux, mais ils n'ont pas le scénario. Et donc, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils jouent, en fait. Enfin, ils vont découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que Paloma, quand elle ouvre les cahiers, elle ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Elle ne les a jamais vus. Comme le personnage.
Elle ne sait pas ce qu'il y a dans la memory box.
Pas du tout. Elle ouvre vraiment la memory box. Elle tombe vraiment sur les photographies. Elle a rencontré Manal Aïssa, qui joue sa mère dans les années 80. Elles ont lié aussi une relation assez forte, très vide. Et donc, en fait, elle ouvre et elle découvre. Elle prend un plaisir fou, non seulement à lire, mais à suivre. Donc chaque fois, entre une scène et une autre, elle se dit, genre, bon, maintenant je vais ouvrir quel cahier et tout. Et bien sûr, ça se passe de façon chronologique, parce que nous, cette méthode ne fonctionne que si on arrive à faire les choses de façon le plus chronologique pour chaque
comédien. Tourner dans l'ordre.
Alors, il se trouve que Alex est de cette génération actuelle, mais qu'elle a quand même un petit appareil pour écouter des cassettes, un appareil d'enfant, puisqu'il y a des cassettes audio, une denrée disparue. Et voilà ce qu'elle entend. Un beau tube des années 80. Fed to Grey. Ça aussi, ça y a le plaisir de la découverte ou de la redécouverte, le plaisir un peu vintage des années 80, même si l'histoire va être dramatique puisque c'est la guerre au Liban.
Elle écoute ça, elle écoute surtout la voix de sa mère, au même âge qu'elle. Et ça, c'est le grand choc, parce que ça, c'est ce qu'on a vécu aussi avec notre fille quand elle écoutait ma voix à 13 ans, à 14 ans. Elle était là, genre, mais non, c'est quoi cette voix? Et en fait, c'est ce qui est fou, c'est comment les sons vont entrer dans sa chambre au Canada. Donc la voix de sa mère, cette histoire qu'elle raconte, cette musique, parfois les voix aussi et les bruits qui sont en arrière-plan, les bruits des bombardements qui arrivent dans sa chambre et qui vont faire de cet univers quelque chose de très différent.
Et là, que dit la voix, justement, en arabe?
Elle dit, elle raconte que comment ses parents n'arrêtaient pas de discuter et qu'elle va lui raconter tout, justement. Et là, elle continue en racontant des choses très détaillées.
On est allé chez Michel et Elena, mais elles n'étaient pas là. Puis on les a retrouvées sur la place.
C'est basé sur véritablement ce qu'il y avait dans les cassettes et les cahiers de Joanna, sur la façon d'aller et venir dans le cahier. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, etc. Donc c'est filmé sur les endroits. Mais Alex, elle n'a pas cet imaginaire. Elle n'a que ces images-là, ces peu d'images, pour commencer à compenser son manque d'images.
Et commencer à faire son film. Et là, ce qui est formidable aussi à l'écran, c'est ce que vous avez utilisé de bricolage. On voit des photos qui commencent à s'animer comme un film. Des photos avec ce grain très vintage années 80, mais donc que vous avez refait avec le cast. Et ce sont des photos qui finissent par s'animer aussi.
C'est très important, en fait, de raconter aussi quelque part une histoire de la photographie et de montrer ces photographies Polaroid, photo bonus, les couleurs. On a énormément travaillé ça, les bords ronds, la façon dont on posait devant la caméra qui est très différente. Nous, on est photographes tous les deux. Et donc, pour nous, c'était extrêmement important et de raconter cette histoire de la photographie, mais aussi au moment où Alex va se mettre à imaginer hors des bords de la photo, parce qu'en fait elle a la photo et elle va sortir des bords de la photo, il fallait faire des trucages, mais pas des effets spéciaux, quelque chose qui a à voir avec aussi l'histoire du cinéma et revenir à quelque chose d'antérieur, parce que nous souhaitions vraiment travailler sur la sensualité des images, la façon dont toutes nos expérimentations artistiques pouvaient aider à faire que le souvenir, c'est une, et la réminiscence, ça vient aussi de cette sensualité-là.
Et c'est jamais nostalgique, du coup.
Non,
il ne faut pas être nostalgique.
Ah oui, on n'est pas du tout dans la nostalgie, même si on réutilise, on revéhicule des outils du passé. Par exemple, là, on a fait référence à Méliès. On commence par Marais et Muybridge sur la chronophotographie, et puis tout d'un coup, sur ces images où on part d'une photographie, mais les personnages sortent du cadre, mais comme il n'y a pas de hors-champ, il rentre dans le noir. Et en fait, techniquement, ce qu'on a fait, c'est que dans le tournage, on a mis du tissu noir.
On a couvert les immeubles de tissu noir.
Donc, ce n'est pas du tricage numérique.
Spécial, non,
c'est du bidouillage.
Alors, on continue l'exploration d'Alex. Alors là, elle vient de découvrir que sa mère a fumé.
Oui, parce qu'en fait, on découvre aussi que ce que j'ai découvert moi-même, que cette histoire de réécriture des souvenirs, de l'histoire, de la mémoire, et ce qu'on raconte à nos enfants, ce qu'on transmet pas.
Et la première cuite.
Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est plutôt la réactivation du passé. On parlait de nostalgie. Là, ce que fait Alex, c'est qu'elle réactive ce passé, en réalité.
Attends. Regarde bien celui qui conduit. Il est super beau. Il s'appelle Reza.
Ouais, elle s'aperçoit aussi que sa mère a été amoureuse d'un garçon du village. En fait, elle découvre, c'est un peu le rêve secret, je pense, de chaque adolescent. Elle redécouvre la personne que sa mère a été à son âge.
Oui,
c'est vertigineux.
Elle découvre ça et elle peut le suivre, mais vraiment jour après jour, parce qu'elle écrivait comme moi, j'écrivais tous les jours. Et donc, en écrivant tous les jours, évidemment, on a les petits événements. On n'a pas la grande histoire. Et ça, c'était quelque chose de très important aussi pour nous de raconter pas forcément une guerre vue à travers la grande histoire, les traumas et les événements, mais à travers la vie quotidienne en fait. Parce que nous, quand on se retrouve, on parle, notre mémoire est très basée sur la vie quotidienne, comment on téléphonait, on allait, on venait, toutes ces choses-là. Et ces petits détails, si on les met côte à côte, c'est eux qui racontent une vie en fait durant ces années-là, ces années de guerre et ces années 80.
Par exemple, 82, vous avez parlé de l'invasion israélienne, mais c'est aussi la Coupe du monde du football. La séquence qu'on voit, c'est justement le moment où ils regardent le match de foot, mais il n'y a pas d'électricité. Donc ils branchent la télévision sur la batterie de la voiture, BM 2002 d'époque, pour regarder. On les entend regarder s'exciter, ce pénalty, etc. Mais en même temps, une autre histoire se joue. Une histoire entre sa mère et l'amoureux, Raja, qui commence à venir, et la présence des armes. La présence des armes qui se manifestent pour manifester des joies.
Oui, parce que c'est la guerre et donc les armes sont partout.
Elles sont partout.
Il y a des armes partout. Il y a aussi, bien sûr, le spectre de cette invasion israélienne mais c'est en fait le va-et-vient. Vivre une guerre, c'est vivre une invasion, assister à un match, tomber amoureux, tirer avec un clashing. Voilà, c'est des choses un peu diverses.
Et on ne sait pas
cliché.
Et on ne sait pas à quelle entre guillemets faction appartiennent Maya ou Raja, son amoureux. Et j'imagine que c'est évidemment volontaire. C'est
pour Maya, je pense que ce qu'elle veut, c'est elle appartient à aucune faction. Son père est pour l'éducation. C'est un peu les choses qui s'opposent. Son père qui est pour ces laïcs éclairés quelque part, qui ont un peu perdu. C'est un peu un hommage à cette génération qui était la génération de nos parents, qui ont traversé ça et qui ont, d'une certaine façon, perdu la bataille. Et c'est eux qui ont perdu la guerre, parce que c'est pas important de quelle faction il est Raja. Il voulait s'engager, il voulait se battre. C'était à l'époque... Aujourd'hui, on voit ça comme quelque chose de bien d'être engagé, mais les milices, c'était aussi, disons, la défaite d'une certaine vision du Liban.
Et surtout, ce qui est très complexe au Liban, c'est qu'aucune milice, aucune faction n'a tenu comme position plus de 6 mois pendant ces 16 années de guerre. Donc il n'y a pas une structure, association qui n'a pas été inversée, associée à d'autres ou à des opposés.
Extérieur nuit, donc après le match, une scène de baiser, on est dans une voiture qui surplombe la ville. Alors cette scène, on l'a vue mille fois dans des films américains, hein, des ados qui s'embrassent dans une voiture au-dessus des lumières de Los Angeles. Mais ici, elle est très particulière parce que déjà, on est au-dessus de Beyrouth. Hein, et ce qu'on entend là, c'est le bruit des bombes. Et puis tout à coup, la pellicule se met à brûler. Alors même si, pour le coup, on est passé à l'ère du numérique. Hein, donc
non. On est passé de nouveau en pellicule pour que ça soit juste, pour qu'on voit vraiment la...
Et parce c'est que magnifique, ça fait référence. Parce qu'on a l'impression que cet embrasement, il correspond aussi à celui des deux ados qui sont dans la voiture. Et ça n'est pas une référence, pas seulement à Monty Hellman et à Macadam à deux voix. C'est une référence à l'une de vos œuvres...
Oui, ça fait référence 90. À un travail, parce que nous sommes aussi plasticiens, et c'est un travail qui s'appelle Wonder Beirut, où véritablement, au lieu de représenter la guerre, on voit ce que la guerre et la violence affectent l'image elle-même. Et donc, elle brûle la pellicule, l'émulsion même. Donc ici, nous avons filmé en digital, transposé en film, et brûlé le film.
Oui, parce que en fait, l'idée d'intervenir sur la pellicule elle-même, comme on disait, c'était pas les effets spéciaux, c'était de faire une intervention artistique. En fait, nous, ce qu'on aime, c'est cette idée qu'on peut raconter une histoire accessible, une histoire de transmission entre trois générations de femmes, qui va parler à des gens très divers, une histoire aussi d'exil, notre histoire d'une certaine façon, mais qu'à l'intérieur, il y aura aussi des expérimentations artistiques, et ces expérimentations, au lieu d'éloigner, elles vont rapprocher le spectateur aussi. C'était un peu la gageure du film, parce que c'est vrai que c'est des mondes dans lesquels nous on vit, mais qui sont très séparés, le cinéma ou les arts plastiques, et nous on pense qu'ils sont extrêmement liés, au contraire, et qu'il faut à tout prix qu'ils se retrouvent, et que ce soit des deux terrains qui peuvent communiquer, et il y a un très grand plaisir du spectateur, je crois, dans ces scènes-là. Et
ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est d'une grande beauté. Et il y a une sorte d'émotion qui envahit le spectateur. Alors, je vous propose de passer à la séquence suivante. Puisque toute la nuit, la fille a été regarder ce carton inépuisable, pris ses photos. Mais là, on est au petit matin. Et la mère d'Alex, Maya, se réveille.
Maya, joyeux Noël.
Elle parle à sa mère.
Elle s'est disputée avec sa mère la veille parce qu'elle a cherché à cacher la boîte de mémoire.
Qu'est-ce qu'elle lui dit là, sa mère ?
Elle lui dit qu'on ne va pas se disputer. Si tu veux appeler les parents de Lisa, tu peux le faire. Mais n'ouvre pas ce passé. Le passé pue, en fait. Et surtout, ne raconte pas à Alex. Elle ne pourra pas comprendre. En fait, en substance, c'est ce qu'elle lui dit. Il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre. On voit bien qu'il y a quelque chose qui lie la mère et la fille, un secret. Et Maya, ça fait 30 ans qu'elle n'est pas rentrée à Beyrouth et qu'elle n'a pas appelé ce numéro qu'elle a dû composer des milliers de fois, qui est celui de sa meilleure amie à l'époque.
Et là, elle entend la voix de la mère de sa meilleure amie et ça, elle aussi, ça l'affecte, même sur un répondeur. Et du coup, ça la pousse à aller ouvrir sa propre valise, ce qui était resté de ses appareils. Et donc, elle retrouve ce qu'elle avait ramené avec elle de Beyrouth quand elle est partie en exil, il y a 30 ans.
Une valise qu'elle n'ouvre pas souvent, en fait. On se rend compte qu'elle est assez un peu éloignée de sa passion de la photographie. Elle n'est pas devenue cette photographe.
Et donc là, en fait, elle retrouve son ancien appareil photo. Elle voit une sorte de flipbook de photos.
Avec les photos de Lisa, qu'elle anime en faisant le flipbook. Et dans l'appareil qu'elle retrouve, qu'elle voit, elle vient et y a un moment d'émotion parce qu'on retrouve un outil qui était une prothèse de son propre regard.
Un appareil argentique.
Et cet appareil, là, on entend le flipbook. On entend ce tic-tic-tic-tic qui anime les images.
Et on n'a pas dit le nom de l'actrice qui est extraordinaire, Rim Turki.
Rim Turki,
qui joue le rôle de Maya. Et moi, j'adore ce moment-là, voir ce qu'il y a dans son regard. Parce qu'elle est surprise par la jeune fille qu'elle a été. En fait, elle a oublié. Oui. Elle a oublié un peu la jeune fille
qu'elle
a été.
Elle l'a totalement mise de côté, en fait. Et Rim Turki, ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas fait du cinéma ou quelque chose comme ça. Elle a travaillé avec Yusri Nasrallah et c'était son retour, en fait, au cinéma. Donc, c'est aussi un retour à un monde qu'elle avait mis de côté. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important entre elle et ce personnage, en fait. Et Rim, au fur et à mesure du film, elle va se réapproprier ce monde qui va devenir le sien, comme Maya se réapproprie un peu son personnage. Et là, elle a ouvert l'appareil photo parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose dedans.
Et il reste un film latent, voilà, qu'elle rembobine et qu'elle va sans doute peut-être développer.
Et on laisse là le suspense. Je vous propose d'arrêter là, Khalil Jorej et Johanna Hadji Thomas. Donc on fait une pause tout en restant dans l'ambiance de votre film avec Blondie, One Way or Another. Vous êtes bien sûr RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde avec nos deux invités, Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, pour parler de Memory Box. Alors Memory Box, le titre, c'est un petit côté magique. Le titre est venu tout de suite. Moi, je pensais un peu à une des grandes... Enfin, il y a peu de boîtes dans l'histoire du cinéma. Moi, je pensais un peu à celle de Kiss Me Deadly, vous savez, qui est radioactive et très dangereuse. Là, c'est une boîte qui est plus ambivalente, qui apporte des...
En fait, on a eu le titre très tard, parce que pendant très longtemps, ça s'appelait Les Cahiers, qui est un titre un peu quand même basique, on va dire. Mais on a eu ce jeu-là, Memory Box, c'est un jeu où, en fait, si vous vous souvenez, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, on cache deux photos et on doit ouvrir et trouver les mêmes. Et en fait, c'est ça qui nous a plu. Il y a bien sûr l'idée de la boîte, l'idée de la mémoire, c'est immédiat. Mais il y a aussi cette idée que le Memory Box, c'est ce jeu, justement, où quand on ouvre les photos, elles ne correspondent pas forcément à ce qu'on attend ou elles peuvent correspondre. Ce sont ces correspondances et ces transmissions qui nous ont plu aussi dans le titre.
Le film a mis beaucoup de temps à se faire. On imagine que c'est pour des questions de financement, mais est-ce que c'est aussi parce que la conception en elle-même de ce film particulier était plus compliqué ?
Le financement n'était pas tellement la chose la plus compliquée. Il a fallu un certain temps pour que tous ces documents se sédimentent, on va dire. C'est-à-dire que c'était une masse incroyable de... On a eu la chance de travailler avec une co-scénariste, Gaëlle Massé, qui nous a permis aussi d'avoir une certaine distance pour ne pas en faire, pour pouvoir l'introduire dans une fiction. Parce que sinon, on était assommés partout.
Gaëlle, elle était un peu comme Alex. Elle ne connaissait pas le Liban, ni les années 80 au Liban, la guerre civile. Donc, son filtre et son expérience, son expertise était très intéressante pour nous.
Après, une fois que le film était plus écrit, il a fallu préparer. Et la préparation pour refaire les cahiers était assez longue. Donc, il y a eu les 10 000 photos à faire, refabriquer les cahiers avec Francky Diago. Tout un univers qu'il fallait reconstituer des années 80. Le tournage. On a terminé le tournage le 1er mai 2019, je me souviens très bien. Et après, on était dans un très long... Le film a été entièrement réécrit. Au montage.
Fait ça souvent parce qu'on a eu la même monteuse depuis le début et qui monte tous nos films, nos documentaires, nos vidéos d'art. Donc elle a en mémoire tout notre travail. Et en fait, très souvent, quand on arrive à la salle de montage, on réécrit entièrement le film avec elle. Et il fallait retrouver justement ces va-et-vient entre le passé et le présent. C'était extrêmement difficile rythmiquement. Et parce qu'il fallait, quand on écrit, elle ouvre un cahier, elle lit, bon, c'est simple. Mais quand on va le montrer, comment on le filme, tout ça, on l'avait beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis, comme dit Khalil, on a quand même travaillé avec Laurent Brett, avec d'autres aussi, Micros. On a travaillé sur comment on va rendre un film sans effets spéciaux, mais picturalement extrêmement intéressant.
Et donc, les choses... C'est des effets spéciaux, quand même.
Oui, c'est des effets spéciaux, mais ce que je veux dire, ce n'est pas des effets spéciaux qu'on a l'habitude de faire, mais quelque chose qui est beaucoup plus proche de nos expériences artistiques. Et donc, il fallait aussi trouver la façon pour chaque scène, pour chaque vision, comme on les appelle, nous, comment on va le faire. Et puis ensuite, n'oublions pas que pendant qu'on montait, le Liban s'est effondré. Il y a eu un effondrement économique tragique qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui et qu'on s'est enfoncé dans un marécage terrible. Et que ça aussi, ça a beaucoup affecté la façon dont on a travaillé. En plus, il y a une explosion qui a détruit une partie du décor où on avait tourné le film.
C'est
mais
ça,
pas
c'est
seulement.
À l'été 2020. Quand on voit votre film, on voit des vues du port.
Oui.
On ne peut s'empêcher de penser que, évidemment, vous avez tourné avant cette tragique explosion.
C'était terrible parce que, aussi, nous, on était très pris. Parce que nous, on habite là-bas, très proche. Moi, j'étais dans un café. Je suis passée sous la table et ça m'a sauvée. Mais en même temps, on a dû aussi revoir le film avec... Ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait écrit faisait un écho très fort à ce qui se passait aujourd'hui, parce que les années 80, tout d'un coup, la dévaluation de la livre, la tristesse ambiante, l'exil, tout était présent de nouveau avec une acuité terrible. Et la fin du film, on la vivait dans une tragédie et une tristesse très différentes de celles qu'on avait en fait voulu, parce que nous, on voulait des retrouvailles, mais ces retrouvailles sonnaient maintenant comme avec la joie et la tristesse terrible.
Comme une parenthèse.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il fallait que le film, même s'il avait été tourné et conçu avant, puisse résonner encore après une rupture aussi importante. Et aujourd'hui, si on va, on dira la même chose. On dira tout est reconstruit. Parce que toutes les façades sont reconstruites. Mais après, quand on se retrouve, on veut encore danser, etc. Même si on est dans une situation apocalyptique, on est sidéré, etc. Mais on a besoin de de ces moments qui sont comme des oasis dans le désert, où on a besoin de se retrouver. On se retrouve, on est toujours... les personnes qui sont dans les cahiers de Joanna, ils sont toujours là avec nous. On se retrouve, on danse sur les mêmes musiques. Ces musiques, elles sont encore actives aujourd'hui. Et one way or another, on va faire la fête malgré
tout.
Parce
que c'est pas l'idée de faire la fête, mais c'est l'idée de l'amitié, de la solidarité. Je crois qu'on s'est rendu compte avec ce qui vient de se passer au Liban, c'est ce qui se passe encore, que la seule chose qui reste, c'est cet élément humain très fort, cette solidarité très forte.
Et ce qui est très touchant aussi dans votre film, c'est que ça raconte, ça rassemble et ça explique un peu tout votre travail précédent. La naissance d'un artiste, parce qu'au cinéma, on voit toujours ça d'une façon un peu romantique. Et là, on s'aperçoit que le personnage fait ça pour apprivoiser un monde qui est devenu un peu fou, hein, puisque c'est celui de la guerre civile. Donc c'est un geste qui est à la fois totalement modeste et en même temps complètement fou.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets un écran entre toi et la réalité. C'est aussi cette façon, c'est-à-dire que quand j'écrivais dans ces cahiers ou quand Khalil prenait des photographies, c'est une façon de comprendre ou en tout cas de se situer. Et bien sûr, c'est très modeste parce qu'on est adolescent, on fait ça avec nos moyens, quelque part.
Mais... la photographie ou l'écriture, ou même tout témoin, oblige à la coprésence. C'est-à-dire qu'on est témoin. On est là, on est en face de ce que ça a été. Et en même temps, c'est un bouclier. C'est-à-dire, ça nous expose et ça nous protège. Parce qu'on met quelque chose où on peut penser en photo, on se protège derrière la caméra, derrière l'écriture, la forme d'écriture, etc. C'est-à-dire que ça introduit un rituel, ça introduit des procédures qui nous protègent et en même temps qui nous exposent.
Et le film, vous l'avez... c'est une lettre d'amour à Beyrouth, hein. on l'a compris. Vous l'avez montré ? Déjà, il a été reçu comment ?
En fait, on n'a pas pu encore le montrer vraiment à part à notre équipe. Et justement, il fallait trouver une façon de finir le film pour qu'il y ait, comme on n'a pas le luxe d'être totalement désespéré, il faut qu'il y ait aussi un petit peu de lumière. Donc, il fallait trouver le bon... mais l'équipe l'a reçu, en fait, avec... c'était très, très intense, en fait. Mais bien sûr, on va le montrer au Liban en février et on a hâte. Mais il y a une intensité parce que, aussi, ça a pris une couleur très différente là-bas.
C'est un film sur la transmission d'un passé, un rewind. Et tout d'un coup, c'est comme si on s'était trompé, on fait un fast-forward en même temps. Donc, on est pris dans ces deux... dans cette avance rapide et le retour... aussi, et on est presque acculé à ce présent.
Et presque acculé à l'optimisme.
C'est pas de l'optimisme du tout, parce que c'est peut-être même peut-être plus désespérant, parce qu'on a l'impression que le retour est quand les choses se répètent, comme si on n'a rien appris. L'histoire, quand elle se répète, c'est tragique.
Oui, c'est ça, c'est cette impression terrible de retrouver ces mêmes phrases, ces mêmes situations. Bien sûr, c'est différent, évidemment, mais nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait comme des cycles, en fait, des cycles, et que ces cycles, on se rende compte qu'après les catastrophes, il y a une régénération, il y a de la lumière qui revient, mais là, c'est pas exactement ça. C'est la chanson de la fin qui dit « There will be light », mais « There is no light now, but there will be light ». Il y aura de la lumière.
Merci Khalil Jorej et Joanna Adjithomas. Vous restez avec nous. On va parler des autres actualités du cinéma juste après le groupe, le duo indie-libanais There Will Be Light, Bonnie Tyler's. Thank you. Et c'est l'heure de notre journal du cinéma avec vous, Sophie. Vous nous emmenez tout d'abord à Berlin.
Oui, car c'est sûr et confirmé, la Berlinale aura bien lieu en format Covidé, hein, certes, plus réduit sur 6 jours seulement, du 10 au 16 février prochain, avec des jauges dans les salles, hein, à moitié donc remplies de spectateurs. Mais le premier grand festival de cinéma de la saison se tient donc néanmoins physiquement, hein, pas comme l'an dernier où c'était totalement virtuel. Et on a le titre du film qui ouvre les festivités, c'est Peter van Kant de François Ozon. Isabelle Adjani va donc être l'une des premières stars de la Berlinale grâce à ce film de François Ozon, Peter van Kant, adaptation libre d'un film du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder.
Onoda, sacré meilleur film de l'année par le jury Louis Deluc.
Dans Onoda, Arthur Harari dresse le portrait d'un soldat japonais qui est resté 10 000 nuits dans la jungle, pensant que la Seconde Guerre mondiale était toujours en cours. Ce film humaniste avait fait l'ouverture de la section Un certain regard à Cannes l'an dernier. Il avait fait sensation critique, mais sorti au cœur de l'été en pleine crise sanitaire, il n'avait comptabilisé que quelques 45 000 entrées. Les jurés du prix Louis Delic espèrent que ce trophée, qui est considéré comme le Goncourt du cinéma, permettra aux distributeurs d'organiser une nouvelle sortie d'Onoda en salle.
Il n'y a pas si longtemps, on les considérait comme les oracles des Oscars, mais après des scandales de corruption, des accusations de sexisme et de racisme, et j'en passe, les Golden Globes ont été, Sophie, cette année décernés presque en catimini.
Et oui, ni retransmission télévisée, ni tapis rouge pour ces trophées de la presse étrangère à Hollywood. Les Golden Globes ont distingué The Power of the Dog, le western thriller de Jane Campion, qui remporte le prix du meilleur film dramatique, ainsi que celui du meilleur réalisateur, et West Side Story, le remake de Steven Spielberg, décroche le Golden Globe de la meilleure comédie ou comédie musicale. Will Smith et Nicole Kidman reçoivent les prix d'interprétation, mais aucun des lauréats n'était présent à la cérémonie qui s'est donc tenue à huis clos.
Et c'est la fin de cette émission. On se quitte avec Love Like Blood de Killing Joke. Donc encore un extrait de la bande musicale décidément inépuisable de Memory Box en salle mercredi prochain. Merci Ralil Djorej.
Merci.
Et merci Johanna G. Thomas.
Merci beaucoup. C'était une expérience très intéressante qu'on a vécue. Et aussi dire que c'est vrai qu'à travers la musique, on se rend compte qu'on a tous vécu une adolescence pas très lointaine. Donc j'invite beaucoup de gens à venir voir le film, pas les Libanais seulement.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard.
La semaine prochaine, on revient vers la France et la façon dont le cinéma traite de la chose politique, en fiction et en documentaire, à travers deux films, Municipal et Les Promesses. Et d'ici là, bonne semaine à tous.